Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel. Bonjour à nos auditeurs, au micro Elisabeth Couget. Je suis accompagnée par mon amie Bernadette Loison, que vous connaissez très certainement, pour parler aujourd'hui d'une artiste rare et exceptionnelle qui était Frida Kahlo. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Et merci d'être venue et de participer à cette émission qui me permettra de vous faire connaître au mieux Frida Kahlo.
Alors, on peut rappeler qui était Frida Kahlo ?
Alors, il serait difficile de la décrire en une phrase simple, parce que c'était vraiment un être exceptionnel. Heureusement, nous avons une demi-heure pour la cerner un peu mieux qu'une simple phrase pourrait le faire. Alors, on peut dire en gros que c'était un artiste peintre étonnant.
Une Mexicaine.
Oui, que son nom ne laisse pas vraiment paraître de prime abord.
Quelle est l'origine de son nom ?
Eh bien, son père était un juif hongrois qui est né en Allemagne et qui s'est exilé au Mexique à la fin du 19e siècle. Il épousera une Mexicaine, je dirais même deux Mexicaines, puisque une première épouse. Et ensuite, en seconde noce, il va épouser celle qui deviendra la maman de Frida Kahlo, qui était une hispano-indienne. Donc, on peut dire à propos de Frida qu'elle était vraiment métissée, hein. Et on peut rajouter encore qu'elle avait un père artiste, puisque c'était un excellent photographe.
Donc, un père artiste. Et peut-être que Frida a hérité de son père ses gènes artistiques ?
Probablement, je pense, on peut dire ça, car sa mère était vraiment très très loin de ce que l'on peut appeler une artiste. Elle s'appelait Matilda Calderón y González. Elle était autoritaire, d'une bigoterie démesurée et elle manquait totalement de chaleur et d'affection maternelle. Par contre, Frida était très très proche de son père et je crois que cette chaleur maternelle qui lui manquait était largement remplacée par ce que son père lui prodiguait. Alors Frida est née en 1906 et elle a 6 ans. Quand elle est atteinte de la poliomyélite qui va l'obliger à garder le lit durant 9 mois. Alors, tu imagines, Bernadette, une petite fille de 6 ans rester coincée dans un lit et couchée pendant 9 mois, si longtemps, ça a été très, très difficile pour cet enfant.
Et il y a eu des séquelles ?
Oui, elle aura des séquelles, bien entendu, moralement aussi. Elle s'en souviendra toute sa vie, mais surtout, elle va se lever de ce lit, avec une forte claudication qui lui vaudra un surnom cruel de ses petites camarades qui vont l'appeler Frida, la pata de madera, et donc, autrement dit, jambe de bois.
Les enfants sont cruels entre eux.
Oui.
Hein. Où va-t-elle à ce moment-là ?
Eh bien, elle va à l'école, elle va fréquenter un collège allemand de Mexico. C'est son père qui veut absolument qu'elle ait une éducation germanique. Comme tout Européen cultivé au Mexique, qui était son père, Guillermo, puisqu'il a changé son prénom pour faire plus hispanique. Et il va posséder une bibliothèque gigantesque constituée essentiellement d'ouvrages allemands, de poésie, de philosophie, etc., d'histoire. Et le père de Frida, qui était à côté de ça, un homme quand même malade, puisqu'il avait de l'épilepsie qui par moment le prenait. Et lors des crises, c'est sa fille Frida qui l'aida. Et qui l'aidera aussi à travailler dans son laboratoire photographique, puisqu'elle aidait à retoucher les photos que son père réalisait.
Donc elle a grandi entre des réalisations artistiques, la littérature et la philosophie.
Oui, exactement. Donc ceci va lui permettre d'avoir un esprit ouvert, et qui expliquera par la suite sa future vie d'artiste et ses choix de vie. Et pourtant... Et peut-être à cause de la maladie de son père et de ses problèmes de santé personnels, elle veut préparer médecine et s'intéresse à l'humaine, à la biologie et à la botanique.
Mais tu parlais tout à l'heure de problèmes de santé. Quels étaient-ils à ce moment-là ?
Eh bien, ces problèmes de santé venaient d'un accident épouvantable qui est survenu en 1925. Frida a donc 19 ans. Elle est en route pour ses études. Elle est assise dans un autobus lorsqu'un tramway le heurte et coince l'autobus contre un mur. Et le corps de Frida est traversé par une barre métallique qui était dans l'autobus. Elle dira plus tard, comme l'épée qui transperce le taureau. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'a ressenti, qu'elle imaginait quand elle pensait et quand elle parlait de cet accident. Alors, les médecins, le diagnostic des médecins était quand même assez considérable, puisqu'ils parlaient de fractures multiples de la colonne vertébrale et du pied, avec écrasement du pelvis. Et ils diagnostiquent pas grand-chose et pas beaucoup d'espérance de vie. Elle est donc totalement condamnée. Et si elle s'en sort, une vie extrêmement difficile. Mais elle va s'en sortir. Non pas par miracle, comme dirait sa maman, mais par la force de son caractère et un sens de l'humour extraordinaire. Elle est capable de tourner en dérision ce qu'elle vit et aura la force de continuer, et non seulement continuer à vivre, mais à survivre comme il faut. Sa vie va totalement changer à partir de là.
Oui, et est-ce que c'est la peinture qui va la sauver ?
Oui, je pense qu'on pourra dire ça, mais on en parlera tout à l'heure, après une petite et une première pause musicale. Écoutons une musique venant du film qui était consacré à Frida Kahlo, justement. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel avec Bernadette. Nous évoquons la vie de Frida Kahlo dans notre émission Histoire d'en savoir plus. On vient de relater le terrible accident qu'a subi cette jeune fille, future médecin, à l'âge de 19 ans, sur une grande avenue de Mexico.
Donc on l'a laissée sur son lit, elle, d'hôpital. Elle est quasiment condamnée à mort par la médecine.
Ah oui, absolument. Ils ne donnent pas beaucoup d'espoir, mais elle survivra. Et pourtant, sa mère, si catholique, c'est difficile à imaginer, jamais ne lui avait rendu visite lorsqu'elle était à l'hôpital. Seule sa sœur aînée qui lui tiendra compagnie durant ces mois difficiles. Ainsi que la lecture aussi qui la soutienne. Son père lui amène plein de livres et elle va découvrir et se vraiment connaître à fond la poésie chinoise, Marcel Proust, Émile Zola, Jules Renard. et d'autres ouvrages qui relatent la Révolution russe et des livres sur les peintres comme sur Cranach, l'Ancien, Dürer, Botticelli ou même Bronzino.
Mais tout ça est bien loin de la biologie et de la médecine.
Et oui, et toutes ces lectures et cet accident qui lui est arrivé vont la changer. À son retour à la maison, 9 mois d'immobilisation l'attend, parce qu'elle n'est pas encore guérie, bien sûr. Elle est clouée au lit dans un corset de plâtre. Son père lui installe un petit miroir en haut et en hauteur de son lit à colonne, où elle peut s'observer, car elle n'avait pas le droit de bouger pendant ces 9 mois. Et il va lui offrir aussi une boîte de couleurs. Et c'est comme ça que la peinture va arriver dans sa vie.
Donc, plus question d'études de médecine, mais plutôt, grâce à ce miroir, une étude de soi-même.
Oui, effectivement. Elle est face à elle-même, puisqu'elle ne peut aller vers les autres, elle ne peut se tourner vers les autres. Elle est proche de l'idée de la mort, peut-être parce qu'elle a réussi à lui échapper, malgré le terrible accident.
Et c'est là qu'elle commencera ses autoportraits.
Oui. Et ces autoportraits, bien plus qu'une autobiographie, seront vraiment révélateurs de son image de l'intérieur. C'est quand elle aidait à retoucher les photos de son père dans son atelier de photos qu'elle a appris la méticulosité du travail sur tout petit format. Et dans le petit miroir qui est accroché en haut de son lit, C'est un petit format qu'elle s'observe. Ses portraits resteront marqués par une obsession du détail.
Alors que se passe-t-il après cette période dans un corset de plâtre ?
Alors sortie de son plâtre, comme d'un moule, disait Frida, elle commence à chercher du travail. Car le très long traitement médical, l'hôpital, tout ça, et les médecins, les médicaments, etc., ont totalement déséquilibré les finances de sa famille. Ils seront même obligés de vendre la fameuse Casa Azul, c'est la maison bleue dans laquelle elle est née et elle a grandi. Et plus question de retourner à l'université, la famille n'avait plus du tout les moyens pour ça. À partir de ce moment-là, Frida va se mettre à fréquenter un milieu artistique politiquement assez engagé et surtout engagée dans la lutte communiste. Elle va s'inscrire d'ailleurs au Parti communiste et ira à la rencontre du grand homme qu'elle admire depuis longtemps. Il s'agit de Diego Rivera. Le grand Diego qui est grand de tous les points de vue parce qu'il était très très grand par la taille. Et c'était un extrêmement grand artiste, puisqu'il est venu en France, il a voyagé dans le monde entier, et reconnu par les Américains. Voilà, il a quand même travaillé, par exemple, dans la tour Rockefeller. C'est lui qui a décoré, si vous y allez, voilà, c'est lui qui avait décoré la coupole, par exemple.
Voilà. Alors, ils deviendront amants, ce fera un couple mythique dans le milieu artistique, et ils se marieront, déjà une première fois, n'est-ce pas ?
Absolument. En 1929, Frida a donc 23 ans. En se mariant avec Diego Rivera, Frida va épouser non seulement un immense peintre, mais vraiment un monument, un morceau de l'histoire moderne du Mexique, de 20 ans son aîné, 20 cm plus haut et 100 kg de plus lourd. Alors, pour Diego, qui était vraiment son dieu, hein, son fils, son père, il était tout pour elle. Hein. C'est comme ça qu'elle l'appelait. Hein. Elle va changer d'allure et elle va endosser le costume chatoyant des femmes de Tehuanas. Comme on prend le voile, par amour.
Alors, qui elles sont, ces jeunes femmes ?
Eh bien, ce sont des femmes, les femmes de Tehuanas, qui portent leur costume typique, fièrement. Elles ont vraiment un joli port de tête royal. Elles sont indépendantes et fières. Et elles ont fait du matriarcat la loi de leur contrée. Donc, c'est vraiment là, c'est elles qui, j'allais dire, portent la culotte. Non, elles sont en jupe. Alors, chaque matin, d'ailleurs, rituellement et jusqu'à la fin de sa vie, Frida va se parer comme une idole, construisant son image, définissant un style vestimentaire que nous retrouverons dans sa peinture. Elle avait une attitude romantique, une authentique retour aux sources vers une redécouverte de ses origines.
Mais alors, de son mariage avec Diego Rivera, aura-t-elle des enfants ?
Non. Son corps a été vraiment détruit à 19 ans lors de cet accident. Il n'aura jamais pu porter un enfant. Elle est tombée enceinte plusieurs fois. Elle a subi des avortements médicaux, mais jamais pu devenir maman. Elle n'a pas pu le porter, le bébé, jusqu'au bout, quoi.
Jamais. Donc peut-être que nous allons écouter un petit peu de musique avant de terminer l'histoire de Frida Kahlo.
De lluvia, una culebra de nube y una culebra de lluvia. Viene bajando del cielo, viene bajando solita, viene bajando del cielo, viene bajando solita. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Tú eres el macho culebra, el que del cielo bajó. Tú eres el macho culebra, el que del cielo bajó. Vienes buscando tu hembra por el arroyo del Vienes buscando tu hembra por el arroyo del Po. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? En lo hondo de la mar lloraba una tortolita y le respondió el gurrión: No llores, prima hermanita, que la mancha del amor con otro nuevo se quita. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Con el tambor te cantaste unas palabras de humo. Con el tambor te cantaste unas palabras de humo. A la mujer la animaste con tu chubasco de brujo. A la mujer la animaste chubasco de brujo. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Dice la gente del monte que llega sin avisar. Dice la gente del monte que llega sin avisar. Que en una peña de lobos se anda dejando agarrar. Que en una peña de lobos se anda dejando agarrar. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Cupido con su guitarra me tocó un valse de amor. Yo no siento la cautela, pero sí me da dolor de ver cambiado canela por cáscara sin olor. ¡Ay! Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, rumbo que nace el sol. Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo dijo que se sabía ese misterio de día.
Écoutez Radio Grand Ciel, c'est notre émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, Elisabeth nous raconte la vie d'une artiste mexicaine tout à fait étonnante, la vie de Frida Kahlo.
Alors, dans cette dernière partie de notre émission, nous finirons d'évoquer la vie et le parcours artistique de Frida, dont la petite enfance dans la Casa Azul s'est déroulée dans le bonheur. Le malheur l'a frappée plus tard. D'abord, la poliomyélite à 6 ans, qui la rendra boiteuse, et surtout le terrible accident de circulation à 19 ans qui changera sa vie.
Alors, au lieu de devenir médecin, on l'a vu tout à l'heure, elle commencera à peindre et deviendra ce peintre qui sera celle que nous connaissons, en fait.
Très surprenant.
Oui.
Alors, Frida, qui est mariée à Diego Rivera, l'immense artiste mondialement connu lors de leur mariage de 20 ans son aîné, de 20 cm de plus grande qu'elle et de 100 kilos de plus. Donc, c'était vraiment un immense homme de tous les points de vue. Et elle va devenir, Frida va devenir une communiste engagée. Hein. Dans sa peinture, apparaîtra Diego à ses côtés, l'homme assez monstrueux, à côté d'une petite poupée mexicaine, toute fragile, toute en couleur dans ses vêtements. Frida réalise de la peinture autobiographique avant toute chose. Elle se raconte à travers ses tableaux, à commencer par sa naissance et par tous les malheurs qui lui sont arrivés.
Est-ce que c'est, à ce sens, une peinture triste, oppressante ?
Non, je ne dirais pas ça, bien qu'on ne puisse pas appeler ça une peinture gaie. Tout simplement, c'est une peinture réaliste.
Et on sait quelle était la vie du couple ?
Eh bien, le jeune couple va se faire construire une maison double par un élève de Le Corbusier, s'il vous plaît. Hein. Cette maison deviendra la Mecque de l'intelligentsia internationale. Écrivain, peintre, photographe, musicien, comédien et militant politique s'y croisent dans une atmosphère bohème, au milieu du va-et-vient des animaux familiers comme les singes, les araignées, les faons, perroquets, chiens, etc., etc., sans oublier des amants et des amantes du moment. C'est un couple très moderne et libre. Mais voilà, ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Ça explose quelquefois entre eux. Et un jour, Frida quittera la maison. Bien sûr, le couple se retrouvera, se séparera de nouveau, mais resteront amis et finiront leur vie ensemble remariés.
Est-ce que c'est à ce moment-là que Transky devient leur ami ?
Oui. Oui, Diego va, je pense qu'il va faire partie de leur vie parce que Diego va racheter la fameuse Casa Azul de la famille, la maison d'enfance de Frida. Ils vont la restaurer, agrandir et elle donnera asile à Trotsky et à sa femme Trotsky aura fui l'Union soviétique. Trotsky tombera amoureux de Frida, qui, il faut dire, malgré son handicap, est une personne ravissante et qui a beaucoup de succès auprès des hommes, quoique de santé extrêmement chancelante. Et après des années de bohème, des événements tristes vont assombrir la vie de Frida, malheureusement.
Que lui arrive-t-il ?
Eh bien, il y a d'abord le choc, c'est l'assassinat de Trotsky. Qui provoqueront des ennuis assez gênants par la police, qui vont l'inviter à parler, à raconter, on va la retenir, etc. Et elle va même partir un peu aux États-Unis, retrouver Diego qui travaille à ce moment-là à New York. Ensuite arrive la mort de son père, qui, comme je disais tout à l'heure, était très très proche d'elle. C'était en 1941 et la mort de son père va l'affecter énormément et va l'attrister profondément.
Et alors sa vie d'artiste ?
Eh bien, elle continue bien sûr et elle commence à être reconnue quand même puisqu'en 1946, elle va recevoir la reconnaissance de la nation et sa notoriété va s'accroître. Elle commence à attirer les collectionneurs, donc on commence à acheter ses tableaux un peu partout, beaucoup en particulier les Américains. Et depuis la mort de Trotsky, elle va réemménager dans sa maison bleue où elle vivra dorénavant et elle donnera des cours de peinture pour les élèves élève de l'école de peinture de sculpture à Mexico. Et quand elle sera incapable de se rendre dans l'école, puisqu'il arrive un moment, elle n'est plus capable d'aller jusque-là.
Donc sa santé se dégrade apparemment.
Oui, à partir de 1946, elle ne peut plus se tenir debout ni assise. Elle souffre le martyre. Des opérations inutiles et douloureuses n'arrangeront rien, mais elle continue quand même à peindre. Et elle peint sa vie, son martyre. Et elle est courageuse malgré tout, mais la dépression la guette. Et malgré les paradis artificiels dont elle use et abuse, et un an avant sa mort, en 1953, il y a enfin une première exposition personnelle au Mexique, lui, sera consacrée. Frida va rédiger ses cartons d'invitation comme un billet doux. Avec amitié et amour, né du cœur, j'ai le plaisir de vous inviter à ma modeste exposition.
C'est très émouvant.
Ah oui. Et Diego va faire installer le fameux lit à colonnes que son père lui avait fait fabriquer après son accident d'autocar au milieu de la salle d'exposition. Et après une arrivée spectaculaire en ambulance, on va l'y installer et Frida va recevoir les hommages et les témoignages d'amitié d'une foule qui se presse autour d'elle jusqu'à risquer de l'étouffer.
Alors son martyr, malheureusement, ne s'arrêtera pas là.
Non, car quelques mois plus tard, on va l'amputer de la jambe droite. Elle va tout endurer dans la dignité, va écrire dans son journal qu'elle tient depuis la mort de son père, puisqu'elle n'avait plus personne à qui vraiment parler. Et elle écrivait dans son journal, et elle écrivait donc « Pourquoi aurais-je besoin de pieds quand j'ai des ailes pour voler ?» Alors tout ça est illustré par des anges aux ailes déployées. Le 2 juillet 1954, elle participe à une manifestation contre le CIA qui venait d'intervenir au Guatemala. C'est sa dernière apparition en public. Elle meurt dans sa casa Azul, là où elle est née, le 13 juillet 1954. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Simon qui est au clavier et je remercie Bernadette aussi pour avoir voulu en savoir plus de cet artiste peu ordinaire qui était Frida Kahlo.
Merci Elisabeth.